Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles, allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit Seigneur se faire une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse ces divines consolations, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous arrivons, Dieu aidant, à la fin de ce grand traité de Saint Thomas d'Aquin sur les lois, le traité des lois, donc. Nous sommes dans la seconda secundae, c'est-à-dire, dans la prima secundae, première partie, la deuxième partie. Et il nous reste donc à terminer ce traité sur les lois avant d'attaquer le dernier traité de la prima secundae, la grâce. Donc des questions 109 à 114. Sur le polycopié, nous en sommes à la page 76, en bas de la page 76. Je vous rappelle l'importance du polycopié. Il est difficile de suivre ce cours sans avoir le polycopié devant vous. Donc ceux qui écoutent par Internet, c'est-à-dire tous ceux qui écoutent par Internet, essayez d'avoir ce texte devant vous ou sur l'ordinateur ou peut-être mieux même d'imprimer les pages du polycopié et d'avoir le texte écrit sous vos yeux. C'est beaucoup plus facile de suivre. Donc, je voudrais d'abord compléter un petit peu des choses qui ne sont pas dans le polycopié, parce qu'il y a beaucoup de choses, on ne peut pas tout expliquer. Je vous rappelle que le traité des lois dans la prima secundae commence à la question 90 et finit à la question 108. Nous en sommes actuellement à la question 106, en fait, donc sur le polycopié, page 76 en bas. Donc nous sommes sur la comparaison entre la loi ancienne, la loi de l'Ancien Testament, et la loi nouvelle. Donc c'est important de bien faire les distinctions qui s'imposent, entre autres pour pouvoir répondre à l'objection de ceux qui disent que le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament étant le même Dieu, donc le Dieu des Juifs qui suivent l'Ancien Testament, qui se considèrent toujours dans l'Ancien Testament, qui attendent l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, est donc le même Dieu que le Dieu des catholiques qui eux sont déjà dans le Nouveau Testament et qui reconnaissent que notre Seigneur Jésus-Christ est déjà venu dans la chair humaine, en unissant sa nature divine avec la nature humaine par le mystère de l'incarnation. Donc, juifs et catholiques, nous avons le même Dieu. Eh bien, je vous l'ai déjà expliqué, il faut bien connaître ces choses. Je reviens rapidement sur ces choses qui ont déjà été traitées dans le cours. Donc, le Dieu de l'Ancien Testament est le véritable Dieu. Le Dieu du Nouveau Testament est le véritable Dieu. Mais comme l'Ancien Testament est maintenant terminé depuis l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, ceux qui refusent le Nouveau Testament, c'est-à-dire les Juifs, et qui attendent toujours notre Seigneur Jésus-Christ venant parmi nous, sont donc obligés de nier l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ il y a 2000 ans. Ils nient donc le mystère de l'incarnation, ils nient l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ parmi nous, et donc ils nient que le Dieu du Nouveau Testament soit le véritable Dieu. Pour eux, le Dieu du Nouveau Testament est un transfuge, si vous voulez, est un quelqu'un qui se prétend Dieu qu'il ne l'était pas. Et donc, le Dieu du Nouveau Testament est donc pour eux un faux Dieu. Ainsi, puisque le Dieu du Nouveau Testament pour les Juifs est un faux Dieu, on est obligé d'en conclure que le Dieu des Juifs, qu'ils adorent actuellement, le Dieu de l'Ancien Testament, n'est pas le Dieu du Nouveau Testament parce qu'il refuse le mystère de l'incarnation. Alors, la loi ancienne doit être bien sûr étudiée. Tous les préceptes de la loi ancienne étaient utiles et nécessaires, même au sein, on peut dire, des Juifs de l'Ancien Testament. Mais actuellement, nous sommes dans la loi nouvelle. Donc, on est passé de la loi ancienne, loi de crainte, à la loi nouvelle, loi de charité. Alors, saint Thomas va se poser la question, donc je complète rapidement des choses qui ne sont pas directement, complètement dans le polycopier. Encore une fois, le polycopier n'est qu'un résumé du texte de saint Thomas d'Aquin. Je précise que le polycopier n'est fait que des textes de saint Thomas d'Aquin mis bout à bout. C'est important, ceci pour répondre à certaines critiques que j'ai eues de personnes qui prétendent qu'il y a des erreurs dans mes cours. Le problème, c'est que quand je leur demande « donnez-moi un exemple de ces erreurs », à ce moment, elles deviennent d'un seul coup muets et sont incapables de me donner un exemple. Je n'ai pas la prétention d'être faillible. Cependant, je vous rappelle que le cours est fait de deux choses. D'une part, le polycopier, d'autre part, le commentaire, l'explication audio que je donne. Le cours est en forme uniquement des textes de saint Thomas, il n'y a donc pas d'erreur dans le texte de saint Thomas, sauf si saint Thomas s'est trompé lui-même, ce qui semble un peu gros quand même, à dire de façon générale. Donc les erreurs, s'il y en a de ma part, viennent des commentaires que je puisse donner. S'il y a des erreurs dans mes commentaires, je suis prêt à le reconnaître, mais à ce moment-là, qu'on me prévienne où et quand ai-je fait ces erreurs, je les corrigerai dès qu'on m'en aura fait mention expresse avec les explications, avec les références données. Je ne risque pas de corriger une erreur si on ne me dit pas où et quand j'ai prononcé cette erreur. Donc j'espère bien qu'avec la grâce du bon Dieu, il n'y a pas d'erreur dans mes cours. Encore une fois, ce n'est pas ma doctrine que je vous donne, mais celle de l'Église catholique, en fait celle de saint Thomas d'Aquin. Nous verrons en son temps que saint Thomas d'Aquin, dans ses explications sur l'Immaculée Conception, évidemment suivait la théologie de son temps. C'était bien avant la déclaration infaillible du magistère de l'Église sous le pape Pie IX en 1854, qui a donné le dogme de l'Immaculée Conception. Nous verrons tout ça en son temps. Alors, voyons donc la comparaison, un petit peu les explications que donne saint Thomas d'Aquin sur la loi nouvelle, la loi évangélique, en comparaison avec la loi ancienne. Il explique bien que la loi nouvelle, il donne ça à la question 106. La loi nouvelle, dit-il, est la grâce même de l'Esprit-Saint donnée aux fidèles serviteurs du Christ. Donc la loi nouvelle est principalement ainsi une loi infuse et secondairement une loi écrite. Le texte évangélique renferme donc deux choses, d'une part la préparation à la grâce et d'autre part la manière d'en faire usage. Ce n'est pas simplement une préparation purement spéculative à la grâce, c'est aussi un moyen de l'atteindre. Donc le texte évangélique va travailler d'une part avec notre intelligence et d'autre part avec notre volonté. Pourquoi ? Le texte évangélique va préparer notre intelligence à la grâce en nous manifestant la divinité et l'humanité du Christ. Puisque l'objet formel de notre intelligence, n'oublions pas, c'est le vrai. Mais le texte évangélique va également travailler avec notre volonté en nous apprenant à mépriser le monde et à mépriser les trois concupiscences du monde, l'orgueil, de la chair et la concupiscence des yeux. Pourquoi ? Parce que par notre volonté, nous devons atteindre la fin pour laquelle nous sommes créés. Donc sur notre intelligence, le texte évangélique travaille pour nous montrer la fin qui est la nôtre, même si elle est première dans l'intention mais dernière dans l'exécution, par la volonté, le texte évangélique nous indique comment atteindre cette fin. Donc l'usage de la grâce, qui est spécifique à la loi nouvelle, l'usage de la loi nous amène, l'usage de la grâce, pardon, nous enseigne à pratiquer les vertus. Donc, la loi nouvelle, surajoutée à la nature humaine par un don de la grâce, ne nous montre pas simplement et seulement ce que nous devons faire, elle nous aide aussi à accomplir, et c'est ainsi qu'elle est infuse en nous. Peut-être que pour bien expliquer la différence entre la loi ancienne, l'Ancien Testament, et la loi nouvelle, le Nouveau Testament, il faut dire que la loi nouvelle est plus parfaite que la loi ancienne. Elle complète la loi ancienne qui amène à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ s'étant incarné dans le sein très pur de la Sainte Vierge Marie par le mystère de l'incarnation il y a 2000 ans, il est évident qu'à ce moment-là, on passe, si vous voulez, on change d'étage en quelque sorte dans l'amour du bon Dieu. On passe de la loi de crainte à la loi d'amour puisque notre Seigneur Jésus-Christ est maintenant venu parmi nous. Alors, saint Thomas se pose la question, mais si cette nouvelle loi justifie, bon, on peut se poser cette question, pour répondre à cette question, il faut d'abord répondre à une autre question, est-ce que la loi ancienne donnait l'Esprit Saint? Saint Thomas explique bien que la loi ancienne, elle prescrivait la charité, mais ne donnait pas l'Esprit Saint, par qui la charité répandait dans nos cœurs. Ne donnait pas l'Esprit Saint, pourquoi? Parce qu'il manquait encore quelque chose, il manquait l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint va être donné directement par les sacrements. Or, les sacrements n'existaient pas encore de façon concrète dans la loi ancienne. Cependant, Dieu donnait aussi aux gens de l'Ancien Testament, aux Juifs de l'Ancien Testament, les moyens de se sauver, justement, par la foi en quelque chose qu'elle est arrivée, à savoir le mystère de l'incarnation. Donc, la loi nouvelle, elle renferme deux éléments. Elle renferme d'une part la grâce de l'Esprit-Saint, puis deuxièmement les enseignements de la foi et les préceptes de la vertu. Donc, développer un petit peu ce que dit saint Thomas d'Aquin. La loi nouvelle renferme deux éléments, la grâce de l'Esprit-Saint, élément principal qui nous est communiqué intérieurement. C'est pour cela qu'il dit que la loi nouvelle, la loi évangélique est principalement une loi infuse, donc il va nous infuser la grâce du Saint-Esprit, et sous ce rapport la loi nouvelle justifie par l'infusion du Saint-Esprit. L'infusion du Saint-Esprit correspond évidemment à la vertu de charité, c'est-à-dire à l'état de grâce. Donc quelqu'un qui est en état de grâce est quelqu'un qui est justifié. Bon. Le problème c'est que cette justification peut disparaître dans la mesure où si j'ai le malheur de commettre une faute mortelle, je perds la charité, donc je perds l'infusion du Saint-Esprit en mon âme. Saint Thomas explique complète en disant que la loi nouvelle non seulement renferme la grâce de l'Esprit Saint, mais elle renferme aussi un élément secondaire. Et cet élément secondaire, dit-il, ce sont les enseignements de la foi et les préceptes de la vertu. Et ces enseignements de la foi, ces préceptes de la vertu sont donnés extérieurement. Et sous ce rapport, elle ne justifie pas. Pourquoi, rappelez-vous ce qu'enseigne saint Paul, que la foi sans les œuvres est une foi morte. Saint Jacques dit aussi la même chose. Donc la foi sans les œuvres est une foi morte. Bon. Donc la foi est en quelque sorte la fondation de la charité, mais la foi seule ne justifie pas. La foi seule ne sauve pas. N'oublions pas que le démon, qui est un ange des ténèbres, il a la foi. Mais une fois, informe, parce qu'il manque justement la vivification par la vertu de charité. Donc, saint Thomas explique bien que la grâce du Saint-Esprit donnée par la loi nouvelle, qui correspond à la vertu de charité, justifie la personne qui la reçoit, mais que les enseignements de la foi, les préceptes de la vertu, qui sont les éléments secondaires du Nouveau Testament, de la loi nouvelle ou évangélique, que ces enseignements de la foi et les préceptes de la vertu, étant donnés extérieurement, ne justifient pas, n'est pas justifié par la foi, mais justifié par la charité. Alors, Évidemment, la question qui va se poser tout de suite, une objection importante à laquelle il faut savoir répondre, que va traiter saint Thomas d'Aquin, on est là à la question 106, à l'article 3, donc de la question 106 de la prima secundae. Il va se poser la question, la loi nouvelle a-t-elle dû être donnée aurait-elle dû être donnée dès le commencement du monde? On se dit, mais puisque la loi nouvelle est une loi plus parfaite que la loi ancienne, pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné la loi nouvelle dès le début? Comme ça, ça aurait été beaucoup plus facile pour tout le monde de se sauver. Bon. Première réponse qu'on peut donner, qui me semble évidente, c'est que ce n'est pas parce que Dieu nous a donné la loi nouvelle que nous sommes sauvés. Il faut encore appliquer cette loi nouvelle par la vertu de charité. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans la loi nouvelle, nous sommes en 2017. En 2017, donc, c'est la loi nouvelle. Eh bien, ça ne veut pas dire que tous les gens qui vivent en 2017 sont sauvés. On n'est pas sauvés par la simple foi, encore une fois, notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, il y a tous ceux qui ne croient pas, donc qui n'ont pas la foi. Deuxièmement, tous ceux qui ont la foi sont la charité, malheureusement. Et il faut être en état de grâce pour pouvoir être sauvé. N'oublions pas qu'une des conditions, la condition sine qua non pour être sauvé, c'est d'appartenir à ce qu'on appelle l'âme de l'Église. L'âme de l'Église, c'est quoi? C'est la congrégation de tous ceux qui sont en état de grâce. Alors, saint Thomas va donc répondre à cette objection. Pourtant, pourquoi la loi nouvelle n'a-t-elle pas été donnée par Dieu dès le commencement du monde? Eh bien, il va donner trois raisons importantes. Première raison, dit-il, la loi nouvelle consiste principalement dans la grâce de l'Esprit Saint. Et pour que cette grâce nous fût donnée en abondance, il fallait que la rédemption du Christ eût détruit l'obstacle du péché. D'où cette parole de saint Jean, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc il a fallu attendre l'incarnation et la rédemption, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, pour que l'obstacle du péché puisse être détruit. Deuxième objection importante, saint Thomas dit que rien n'atteint tout d'un coup la perfection. Donc chaque chose a dans le temps son progrès successif. On est enfant avant d'être homme, la loi étant un premier maître qui devait nous conduire à notre Seigneur Jésus-Christ. Il fallait donc un temps de préparation. Plus le héros annoncé est important, notre Seigneur Jésus-Christ est de loin, l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, c'est quand même de loin l'événement le plus important dans l'histoire du monde. Eh bien, plus cet événement est important, plus il fallait le préparer pour que les gens en comprennent l'importance. Donc, cette loi ancienne nous conduit à notre Seigneur Jésus-Christ. Première réponse, la loi nouvelle consiste principalement dans la grâce de l'Esprit Saint. Il fallait donc que la rédemption du Christ eût détruit l'obstacle du péché. C'est la réponse à la première objection. Réponse à la deuxième objection, donc, à savoir que la perfection n'est pas atteinte immédiatement, qu'il faut un temps de préparation. Donc, troisième réponse à l'objection de saint Thomas d'Aquin, la loi nouvelle est une loi de grâce. Afin que l'homme comprît la faiblesse de sa nature et le besoin qu'il avait de la grâce, il lui fallut que, abandonné à lui-même sous l'ancienne loi, il apprit par ses chutes quelle est son impuissance. La loi est venue, dit saint Paul, et le péché a abondé, mais le péché a abondé, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et donc, on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ prépare en quelque sorte les cœurs à recevoir cette grâce, de la même façon qu'il a préparé le peuple élu de l'Ancien Testament, le peuple juif, à accepter notre Seigneur Jésus-Christ qui arrive dans son humanité. Dans notre humanité, il y a 2000 ans, il ne va pas donner l'incarnation immédiatement. Donc il faut que les gens comprennent l'importance de cette venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, on voit très bien que tous les prophètes, depuis les premiers patriarches, le premier patriarche c'est quand même Abraham, bon, depuis le premier patriarche Abraham jusqu'au dernier des petits prophètes en fait, eh bien tous ces prophètes annoncent, préparent le peuple juif de l'Ancien Testament à accepter l'arrivée de notre Seigneur. Donc il y a conséquence, dit saint Thomas, explique saint Thomas, il n'y a aucune injustice dans le retard de la grâce. Le genre humain avait mérité d'en être privé à cause du péché. Si elle est refusée à quelques-uns, c'est par justice. Et si elle est donnée à d'autres, c'est une faveur. Et il y a eu toujours, dans tous les temps, des hommes qui appartenaient à la nouvelle alliance, dans le sens qu'il y avait toujours, dans tous les temps, des hommes qui vivaient en état de grâce. Nul n'a jamais eu la grâce du Saint-Esprit que par la foi explicite ou implicite au Christ. Or, par cette foi, l'homme appartient au Nouveau Testament. Donc, quelqu'un de l'Ancien Testament qui a la foi catholique en, au Christ qui va y arriver et qui vit en fonction de cette foi, en cette arrivée future du Christ, eh bien, appartient à l'âme de l'Église. Il est donc en état de grâce et il peut et sera sauvé s'il meurt dans cette appartenance à l'âme de l'Église. L'appartenance au corps de l'Église ne suffit pas. L'appartenance au corps de l'Église, c'est quoi? C'est tous ceux qui sont baptisés. Vous avez des millions de personnes qui sont baptisées en France et qui vivent comme des païens et qui se moquent complètement du bon Dieu. Donc ce qui compte, ce n'est pas en soi l'appartenance au corps de l'Église, ça ne suffit pas. Il faut l'appartenance à l'âme de l'Église, cette âme de l'Église qui va vivifier un corps sans âme, c'est un cadavre. D'appartenir à un cadavre, ce n'est pas ça qui va vous sauver. Alors, cette loi nouvelle, donc donnée par notre Seigneur Jésus-Christ, va durer jusqu'à la fin du monde. Il est clair qu'une loi qui nous met dans un tel rapport avec notre fin dernière ne peut être remplacée ici-bas par un état plus parfait. Donc on voit très bien qu'il y a en quelque sorte trois états successifs. Donc l'humanité est destinée à vivre dans trois états successifs. Il y a l'état de la loi ancienne, l'état actuel qui est le nôtre, et l'état de gloire. Donc la loi ancienne, la foi, l'étape qui est la nôtre, la loi nouvelle, c'est la charité, et qui amène à l'état de gloire, qui est la vision béatifique au ciel. Vision béatifique parfaite de Dieu, dans le sein de sa Sainte Trinité, pour lui, et vision imparfaite pour nous au ciel, si nous avons la grâce d'être en état de grâce au moment de mourir et passer devant Dieu. Donc l'humanité a été destinée à vivre dans trois états. Celui d'abord de la loi ancienne qui était figuratif et imparfait par rapport au nôtre. Je vous ai déjà dit que la loi ancienne de l'Ancien Testament est une loi imparfaite. Deuxièmement, le nôtre, l'état dans lequel nous sommes, qui est figuratif et imparfait par rapport à l'état de gloire, qui est donc le troisième état, qui sera détruit à l'événement de ce dernier, comme le marque cette parole. Maintenant, nous voyons Dieu dans un miroir, mais alors nous le verrons face à face. 1 Corinthiens, Saint Paul, chapitre 13. Donc l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné pour la loi ancienne parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Notre Seigneur Jésus-Christ va être glorifié, il a commencé par être glorifié par sa résurrection, sa mort et sa résurrection. Il va être glorifié encore plus évidemment par sa montée au ciel le jour de l'Ascension. Donc l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est un texte de Saint Jean, chapitre 7. On doit donc conclure que l'Esprit Saint fut donné immédiatement après que le Christ eut été glorifié par sa résurrection et par son ascension. Elles sont donc folles, les utopies de tous ceux qui attendent une ère nouvelle, comme les Juifs qui attendent toujours l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'il est venu il y a 2000 ans, il a prouvé qu'il était Dieu par l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, par tous les miracles qu'il a opérés. Et bien malgré cela, les Juifs qui sont dans un état de cécité spirituelle n'ont pas voulu reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ. Au lieu de le reconnaître comme roi, non, l'ont crucifié, l'ont tué, et donc sont responsables de cette cécité dans laquelle ils sont. Évidemment, n'oublions pas que tous les Juifs qui se sont convertis à l'époque, n'oublions pas une chose très importante, c'est que tous les apôtres, les disciples, notre Seigneur Jésus-Christ, sont des Juifs convertis. Bon, Saint Paul était un païen, mais sont des Juifs convertis dans le sens que notre Seigneur Jésus-Christ leur a donné la connaissance de la vérité. Et une fois que les Juifs se sont convertis, les Juifs convertis sont rentrés, sont suivi notre Seigneur Jésus-Christ, ils n'étaient plus Juifs, ils étaient catholiques. Hein. Notre Seigneur Jésus-Marie est est né, si vous voulez, sous l'Ancien Testament, mais va évidemment joindre l'Église du Nouveau Testament, qui est l'Église catholique, au moment du mystère de l'incarnation, par son acceptation totale, parfaite de ce mystère. Donc, elles sont folles, toutes les utopies, de ceux qui attendent une ère nouvelle, hein, qu'ils appellent l'ère du Saint-Esprit, comme si l'Esprit Saint n'avait pas enseigné aux apôtres tout ce qui est nécessaire de croire et de pratiquer pour être sauvé, comme si la loi évangélique n'était pas, selon l'expression de Saint Paul, l'Esprit de vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on n'attend pas une ère de l'Esprit Saint parce que cette ère de l'Esprit Saint, elle est déjà arrivée. Elle est arrivée par l'incarnation, elle est arrivée par la rédemption, la montée au ciel de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc vous voyez que ce passage de la somme de saint Thomas d'Aquin s'oppose en plein aux folies des pentecôtistes actuels qui se prétendent encore catholiques et qui prétendent qu'il y a un baptême dans l'Esprit. Ça nous arrive régulièrement quand on parle avec des protestants ou des charismatiques qui sont tout simplement des protestants, hein, qui nous disent « Mais avez-vous été baptisé dans l'Esprit ?» Je réponds « Ben, j'ai été baptisé par le baptême d'eau, j'ai reçu le baptême d'eau, j'ai donc été baptisé dans l'Esprit. » Ils vous disent « Non, il faut un deuxième baptême dans l'Esprit. » Mais ce deuxième baptême dans l'Esprit n'existe que dans leur imagination. L'Église catholique et notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais parlé d'un deuxième baptême dans l'Esprit. Mais il n'y a qu'un seul, un seul baptême dans l'Esprit. Il y a donc il n'y a pas à attendre un nouveau baptême dans l'Église charismatique. Donc attention à ces choses-là. L'Église catholique nous donne déjà tout ce qu'il nous faut. Il n'y a pas des choses à rajouter, une connaissance à rajouter qui va être donnée par un soi-disant baptême dans l'Esprit. Alors on nous raconte que dans les assemblées charismatiques, les gens se mettent d'un seul coup à parler des langues, et donc ça prouve qu'on rajoute quelque chose à ce qui était incomplet auparavant. La réponse est très simple. À quoi ça vous sert de parler, je ne sais pas comment, le japonais par exemple, en France, dans une réunion charismatique, si tous les gens qui sont autour de vous sont tous des Français par exemple, à quoi ça sert de parler le japonais? Rien du tout. Le monde ne fait pas des miracles, sans raison. Donc, c'est une question, l'esprit charismatique, le renouvellement de ce soi-disant baptême de l'esprit, c'est un baptême tout simplement dans le démon, dans l'esprit du démon, voilà. Alors, certes, il y a eu des espèces de guérisons parfois qui sont faites par ces pseudo-catholiques, par ces pentecostalistes, pentecostistes. Il y a une espèce de pseudo-guérison, mais ce sont des singeries du démon pour essayer de troubler les catholiques. Quand il y a ces espèces de guérisons bizarres, elles ne durent pas. On voit tout de suite, elles n'amènent pas à notre Seigneur Jésus-Christ, elles n'amènent pas à l'Église catholique. Si une guérison n'amène pas à notre Seigneur Jésus-Christ, à l'Église catholique, elle ne sert à rien. Elle est fausse. À chaque fois que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était parmi nous, faisait un miracle, justement, il demandait, avez-vous la foi? Croyez-vous que je peux le faire? Et on voit très bien qu'après les miracles, les gens qui sont miraculés joignent l'Église catholique. Alors il crut, lui et toute sa famille, par exemple. On voit très bien chez le Romain qui a été droit ce miracle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui guérit un membre de sa famille. Alors, continuons ce commentaire sur le texte de saint Thomas d'Aquin, donc sur les comparaisons de la loi ancienne avec la loi nouvelle. Le sacerdoce, dit saint Paul, ayant été transféré, nécessaire que la loi le soit aussi. Donc le sacerdoce ancien, le lévirat si vous voulez, la loi des lévites, est transféré, transformé et devient le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas que les lévites, les prêtres de l'Ancien Testament, n'avaient aucun pouvoir pour pardonner les péchés ou pour changer le corps, le pain au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. On était dans l'Ancien Testament, évidemment pas encore le sacrifice de la messe établi dans l'Ancien Testament. La loi nouvelle n'est donc pas autre chose que la loi ancienne, d'un certain côté, car l'une et l'autre ont la même fin, qui est la soumission de l'homme à Dieu. Donc, la loi ancienne pour l'Ancien Testament, la loi nouvelle pour le Nouveau Testament, la loi ancienne avant notre Seigneur Jésus-Christ, la loi nouvelle après notre Seigneur Jésus-Christ, ont pour but d'amener l'homme à se soumettre à Dieu et à sa volonté. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que le même Dieu est le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie par la foi les circoncis et les incirconcis. Mais la loi nouvelle est en même temps une loi différente, autre que la loi ancienne, parce qu'elle est devenue justement la loi de la charité. La loi nouvelle est une loi de perfection, elle est la loi de la charité. La loi nouvelle est comme le maître à l'égard des enfants. Donc la différence qui existe entre la loi ancienne et la loi nouvelle est la différence de l'imparfait au parfait. Donc la loi, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour détruire complètement la loi ancienne, il est venu pour la perfectionner. Donc la loi de crainte appliquée à la loi ancienne, le nom de loi de crainte appliquée à la loi ancienne convenait à l'homme imparfait, c'est-à-dire à l'homme étranger à la grâce spirituelle. Mais la loi nouvelle, au contraire, consistait principalement dans l'infusion de la grâce, est appelée loi d'amour. Donc la loi nouvelle, dans ce sens-là, peut justifier, alors que la loi ancienne ne pouvait pas justifier. Donc rappelez-vous, texte de saint Thomas, la loi ancienne prescrivait la charité, mais ne donnait pas l'Esprit Saint. Pourquoi ? Parce que justement, il manquait l'incarnation et la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes toujours en bas de la page, dernier paragraphe de la page 76 sur le polycopié. Alors, saint Thomas se pose la question de savoir si la loi nouvelle accomplit la loi ancienne. Alors, le Seigneur l'explique expressément en disant : je ne suis pas venu détruire la loi, sous-entendu la loi ancienne, mais l'accomplir, c'est-à-dire la perfectionner. Donc il ne manquera ni un iota, ni un trait à l'accomplissement de la loi. Dans la loi ancienne, donc on peut considérer à la fois la fin et les préceptes. Bon. Quant à la fin, se proposait la justification des hommes. Donc le but de la loi ancienne, c'était aussi la justification des hommes, mais elle ne pouvait l'opérer directement, puisque notre Seigneur Jésus-Christ ne s'était pas encore incarné. Donc elle se contentait de la figurer par ses cérémonies, de la promettre par ses oracles. La loi évangélique, au contraire, la loi du Nouveau Testament, donc, la loi de charité, est venue accomplir cette loi ancienne en justifiant les hommes par la vertu de la passion du Rédempteur. Les Juifs de l'Ancien Testament ne pouvaient donc pas être justifiés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, tout simplement parce que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas encore été répandu sur l'autel de la croix. Ce que la loi ne pouvait faire, Dieu l'a fait, lorsque, ayant envoyé son propre Fils revêtu d'une chair semblable à la chair du péché, il a condamné le péché dans la chair afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. En quelque sorte, par son incarnation, en prenant notre nature humaine, notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, a ouvert les portes de la rédemption, qui vont commencer à s'ouvrir en quelque sorte avec l'incarnation, au moment où il a pris chair dans le sein très pur de notre Seigneur Jésus-Marie, et qui va se compléter évidemment par la rédemption, la mort sur la croix le vendredi saint, 33 ans plus tard. Toutes les promesses de Dieu ont dans le Christ donc leur vérité, leur perfection sera dans le Christ. Toutes les cérémonies de la loi étaient donc l'ombre d'un corps, et ce corps c'est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant aux préceptes de la loi ancienne, le Sauveur les a accomplis par ses œuvres et par sa doctrine. Donc, il a dégagé en quelque sorte, nous dit saint Thomas, cette loi ancienne de la fausse interprétation des pharisiens pour la rendre à son sens primitif et la perfectionner justement par son arrivée parmi nous. Alors, on peut donc dire que la loi nouvelle était renfermée dans la loi ancienne. Pourquoi ? Parce que le Nouveau Testament est à l'ancien ce que le parfait est à l'imparfait, on a déjà expliqué. saint Thomas va citer sa marque. Donc vous avez ce texte en bas de la page 76 sur le polycopier. La terre, saint Marc chapitre 4, la terre produit d'elle-même l'herbe d'abord, ensuite l'épi, puis le grain formé dans l'épi. Et saint Jean Chrysostome, cité par saint Thomas d'Aquin, explique donc, un grand docteur de l'Église, explique que l'herbe apparue sous la loi de nature, les épis sous la loi mosaïque, le grain formé sous l'Évangile, on peut rajouter, et le pain lui-même sera trouvé au ciel en quelque sorte, déjà trouvé ici-bas par la Sainte Communion, par la Sainte Eucharistie, qui est le pain substantiel, le pain d'effort, le pain surnaturel, qui est la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, mais en tant que tel, ce pain extraordinaire nous sera donné de façon définitive au ciel. Donc, première étape, l'herbe, la loi de nature. Deuxième étape, les épis, ça c'est la loi de l'Ancien Testament, la loi mosaïque. Troisième étape, le grain, l'évangile, la loi nouvelle. Enfin, quatrième étape, la grâce, le pain éternel au ciel. La loi nouvelle est donc renfermée dans l'ancienne, comme le grain dans l'épi, l'arbre dans la semence, le complet dans l'incomplet, l'effet dans la cause, le parfait dans l'imparfait. Tout ce qui est donc ouvertement et explicitement proposé à notre foi dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament le proposait aussi, mais implicitement et sous le voile des figures. Tous les préceptes de la loi nouvelle sont donc contenus quant à leur substance dans l'Ancienne. Il n'y a pas d'opposition en quelque sorte, d'opposition entre, de ce côté-là, entre la loi de l'Ancien Testament et la loi du Nouveau Testament. Parce que dans les deux cas, c'est le même Dieu qui est en ligne de mire. Donc rien n'empêche qu'une chose plus grande soit contenue virtuellement dans une autre, moins grande, comme l'arbre est contenu dans sa semence. Donc on peut résumer ça par cette phrase de saint Thomas, la loi nouvelle est dans l'ancienne comme le grain est dans l'épi. Vous avez ceci, cette explication donc en bas de la page 76. Par saint Thomas d'Aquin. Les actes intérieurs, nous dit-il, quand il s'agit d'activités vertueuses, offrent une autre sorte de difficulté, par exemple, celle de réaliser l'œuvre vertueuse avec promptitude et plaisir. Et en cela réside la différence de la vertu. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ va s'infuser en quelque sorte en nous par la vertu de charité, par la loi nouvelle, ce qu'il ne pouvait pas faire de la même façon par la loi ancienne. Donc, ce qui est difficile dans la pratique de la vertu, ce qui est très difficile à qui ne possède pas la vertu, devient cependant facile grâce à elle. La loi nouvelle, donc, qui condamne les désordres intérieurs de l'âme, est plus exigeante en soi que ses préceptes que la loi ancienne. Ses commandements ne sont pas difficiles, les commandements du bon Dieu ne sont pas difficiles quand on aime. Et saint Augustin fait remarquer, les commandements ne sont pas difficiles quand on aime notre Seigneur Jésus-Christ, mais ils sont très difficiles si on n'aime pas notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est rien de dur et de rigoureux que l'amour ne rende aisé et comme négligeable. Donc, il explique très bien cela dans la question 107 de la Prima Secundae, question 107, article 4. Nous sommes maintenant au sommet de la page, en haut de la page 77 dans le polycopier. Donc, saint Thomas répond à la question suivante. La loi nouvelle est-elle plus difficile à porter, plus onéreuse que la loi ancienne ? Et il cite saint Hilaire, qui commente ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. « Venez à moi, vous tous qui travaillez et qui êtes surchargés, qui ployez sur le fardeau. » Et il fait observer que le Seigneur appelle tous ceux qui sont fatigués des difficultés de la loi. Il insiste sur ces mots, mon joug est doux et mon fardeau léger. Mon joug est suave et mon fardeau léger. La conclusion qu'il en tire, c'est que la loi nouvelle est plus douce que l'ancienne. Donc, la loi ancienne est une loi de crainte, la loi nouvelle est une loi de charité, une loi d'amour. Il est plus facile de suivre notre Seigneur Jésus-Christ par amour que de suivre notre Seigneur Jésus-Christ par crainte. Cependant, évidemment, si je refuse notre Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, évidemment, la loi nouvelle ne sera pas quelque chose de plus doux à porter pour moi. Saint Thomas donc explique bien que tout dépend en fin de compte de l'amour qu'on a pour le bon Dieu. C'est pour cela que la loi nouvelle s'adresse en fait à des gens qui veulent la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, à des gens qui possèdent la charité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, sous ce rapport, il explique voilà ce qu'il dit. Les actes vertueux, dans les actes vertueux, pardon, qui font l'objet des préceptes, il y a deux sortes de difficultés. Bon. D'abord, première difficulté, l'une provient de l'opération extérieure. L'autre difficulté provient de l'opération intérieure. Donc, expliquons, j'ai déjà expliqué un peu ça, on revient sur ce que je viens de dire. Donc, la première difficulté provient de l'opération extérieure, qui par elle-même ne laisse pas que d'offrir quelque chose de gênant. Sous ce rapport, la loi ancienne, par les cérémonies multipliées auxquelles elle obligeait, était incontestablement plus onéreuse que la loi nouvelle. Les cérémonies de l'Ancien Testament étaient assez compliquées, entre autres les cérémonies de purification. Au contraire, la doctrine du Christ et des apôtres n'ajoute qu'un petit nombre d'actes extérieurs aux préceptes de la loi naturelle. Donc, saint Augustin recommande une sage modération justement sur ce point, parce que beaucoup de certains pères ont rajouté d'autres actes extérieurs aux préceptes de la loi naturelle, mais saint Augustin recommande une sage modération sur ce point, de peur, dit-il, qu'on ne rende l'observation de la loi trop onéreuse. Dieu a voulu, dit saint Augustin, dans sa miséricorde, que notre religion fût une religion de liberté. La liberté divine nous les délivrera. Et pour cela, notre Seigneur va réduire un petit nombre de pratiques extérieures de la plus grande simplicité, justement, c'est cet amour qu'on doit avoir pour Dieu. Donc les pratiques extérieures sont beaucoup plus légères dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament, sans qu'on n'a pas toutes ces purifications qui existaient dans la loi ancienne. Donc, que ceux qui veulent, dit saint Augustin, que ceux qui veulent surcharger de lourds fardeaux, prennent garde que les fidèles n'en soient réduits à envier la condition des Juifs, laquelle du moins ne dépendait pas de la présomption des hommes. Donc on se sanctifiait justement par l'accomplissement de ces purifications dans l'Ancien Testament. Bon. Donc de ce côté-là, la loi nouvelle est moins onéreuse, moins difficile à porter que la loi nouvelle. Mais au niveau, deuxième difficulté, donc au niveau de l'opération intérieure, à ce moment-là, il faut bien reconnaître que les préceptes de l'Évangile sont difficiles pour celui qui n'a pas l'habitude de la vertu. L'Ancien Testament insistait davantage sur la préparation extérieure, la purification extérieure. Le Nouveau Testament va exiger une purification intérieure. Et de ce côté-là, dans ce sens-là, le Nouveau Testament est plus exigeant, plus onéreux à porter que la loi de l'Ancien Testament. C'est là donc qu'il y a de plus difficile pour celui, c'est là ce qu'il y a de plus difficile pour celui qui n'est pas vertueux, il n'y a pas la vertu de charité, donc il n'arrive pas à porter la loi du Nouveau Testament. Les préceptes du Christ, donc, en résumé ce que dit saint Augustin, cité par saint Thomas d'Aquin, les préceptes du Christ ne sont pas pénibles, et ils ne sont pas pénibles pour celui qui aime. Mais au contraire, si je n'aime pas le bon Dieu, alors à ce moment-là, je vais trouver des tas d'excuses pour me plaindre de ce que le bon Dieu me demande. Donc les gens qui ne vivent pas en état de grâce vont râler toute la journée, si vous voulez, contre les obligations de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vont se plaindre toute la journée contre les obligations que notre Seigneur Jésus-Christ leur a mis sur la route, parce que justement, ces obligations données par notre Seigneur Jésus-Christ sont un obstacle à leur liberté. Donc ils veulent en faire qu'à leur tête. Évidemment, si on est dans la loi nouvelle, ben, il faut suivre ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit, pas simplement dans l'extérieur, mais dans l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'état de grâce. On peut suivre toutes les recommandations externes de notre Seigneur Jésus-Christ, mais si je n'ai pas l'état de grâce, je ne suis rien. Rappelez-vous Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 13, premier épître aux Corinthiens, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je suis comme une cymbale qui retentit. Donc, comme la loi nouvelle donne cet amour de Dieu, on peut dire qu'elle est moins onéreuse que la loi judaïque. Pourquoi ? Parce que l'amour rend plus facile les choses dures et cruelles. Ce qui a donc été ajouté aux préceptes moraux de la loi ancienne a pour but de rendre l'accomplissement plus aisé. Donc la loi nouvelle, loin d'être plus onéreuse que l'ancienne, est au contraire plus facile à observer, sous-entendu si j'ai la charité en moi. Si j'ai la charité du Christ dans mon âme, la loi, les préceptes de la loi nouvelle sont faciles à porter. Si je n'ai pas la charité du Christ en moi, parce que je vis dans l'état de péché mortel, à ce moment-là, les exigences de la loi nouvelle sont difficiles à porter, sont même impossibles à porter sans état de grâce. Personne ne peut suivre vraiment les 10 commandements de Dieu, les exigences aussi qui découlent des préceptes et des conseils évangéliques, de pauvreté, chasteté, d'obéissance, mais personne ne peut suivre ces préceptes. L'esprit des préceptes sont la grâce du bon Dieu. Et donc la grâce du bon Dieu va faciliter en quelque sorte l'accomplissement de ces préceptes. Alors à la question 108, Saint Thomas creuser encore la chose. Donc on en est à la page 77 donc de Polycopié. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Thomas par exemple, excusez-moi, Saint Thomas d'Aquin nous fait bien comprendre que, si vous voulez, au début, notre Seigneur Jésus-Christ donnait à ses disciples une nourriture qu'il aurait été facile d'avaler. À un enfant, à un bébé, on donne du lait. Bon. Quand l'enfant devient un nourrisson, on lui donne du lait. Sa maman lui donne le lait maternel parce que justement, c'est la seule chose qu'il peut digérer. Puis après, au bout d'un certain temps, au bout de 2-3 ans, il peut commencer à ce moment-là à donner un autre type de nourriture beaucoup plus substantielle. Et l'enfant va être sevré et par le sevrage, justement, l'enfant va arrêter d'utiliser le lait maternel. Bon. Et lorsque l'enfant grandit, au bout d'un certain temps, il peut commencer à manger comme les adultes. Donc les disciples étaient encore comme des petits-enfants formés par le Christ et il fallait que celui-ci leur donnât quelques instructions spéciales comme font les supérieurs vers leur sujet. Donc ils devaient petit à petit les habituer peu à peu à abandonner toute préoccupation temporelle pour les rendre propres à prêcher l'évangile par toute la terre. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va prêcher, pas simplement les 10 commandements, mais il va prêcher même au-delà des 10 commandements, ce qu'on appelle les préceptes, les conseils évangéliques, pardon, de pauvreté, chasteté et d'obéissance. Donc la loi nouvelle, si vous voulez, pour résumer, consiste principalement dans la grâce du Saint-Esprit. Donc, les œuvres extérieures peuvent se rapporter de manière à la grâce, d'abord comme des moyens qui nous la communiquent, baptême, la Sainte Eucharistie, les sacrements. Ensuite, comme des actes que nous produisons sous l'impulsion de la grâce elle-même. La grâce donnée par les sacrements va déboucher sur l'action qui est vivifiée justement par la charité. Donc, sous ce dernier rapport, il y a une différence essentielle, dit saint Thomas d'Aquin, entre les œuvres extérieures. Les unes sont conformes à la grâce, les autres lui sont opposées. La loi nouvelle prescrit les premières, c'est-à-dire les œuvres qui sont conformes à la grâce, et interdit les secondes, c'est-à-dire les œuvres qui sont opposées à la grâce. Quant aux œuvres qui ne sont essentiellement ni conformes ni contraires à la foi et à la charité, Jésus-Christ ne les a primitivement ni commandées ni défendues. Il les a laissées à l'appréciation des hommes chargés de procurer le bien des autres. Donc la loi nouvelle, si vous voulez, pour résumer, est une loi de liberté. C'est pour cela que les trois vertus de pauvreté, chasteté et obéissance ne sont pas des vertus absolument de préceptes, mais de conseils, ce qu'on appelle les conseils évangéliques. Elles vont devenir des préceptes pour ceux qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ d'une façon plus parfaite par la vocation religieuse, sacerdotale. Mais le bon Dieu propose en quelque sorte aux hommes qui veulent le suivre, qui veulent l'aimer encore davantage, propose ces trois vertus, pauvreté, chasteté et obéissance, parce que ces trois vertus vont permettre de monter l'âme encore un peu plus haut vers le bon Dieu. Et par la vertu de pauvreté, chasteté et d'obéissance, eh bien on va donc trouver une liberté qu'on n'a pas en dehors de ces trois vœux de pauvreté, chasteté et d'obéissance. Donc la personne qui est la plus libre dans le monde, c'est qui? C'est la personne qui, librement, choisit de se lier à Dieu par la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Donc, par la pauvreté, l'esprit de pauvreté, les vœux de pauvreté, chasteté et l'obéissance, on n'est pas rentré dans un esclavage, on est rentré au contraire dans un domaine d'amour parfait pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la loi nouvelle a parfaitement réglé les actes extérieurs. Le divin sauveur a nécessairement établi comme il faut les véritables bases de notre salut. Quiconque entend ce que je dis, le met en pratique, on peut le comparer à un homme qui a bâti sa maison sur le roc, dit ça notre Seigneur, Saint Matthieu, chapitre 7. Celui qui a bâti sa maison sur le roc, eh bien, il est sûr que tout ne va pas tomber en décrépitude au moment des tempêtes, parce que justement, le socle est solide, les fondations sont solides. Donc, la loi nouvelle, donc ça, on trouve ça dans Saint Thomas d'Aquin, question 108, article 2. La loi nouvelle n'a dû commander ou défendre que deux sortes d'actes. D'une part, ceux qui nous conduisent à la grâce, par la foi qui amène à la charité. D'autre part, ceux qui appartiennent nécessairement au bon usage de la grâce, c'est-à-dire ceux qui appartiennent explicitement à la vertu de charité. Donc, comme nous ne pouvons pas acquérir la grâce par nos propres forces, le Christ a dû établir par lui-même les sacrements qui nous la communiquent. La grâce est un don créé de Dieu pour nous. La grâce sanctifiante, c'est quelque chose de créé par Dieu. Mais la grâce sanctifiante, elle est surnaturelle, c'est qu'elle dépasse les pouvoirs de la nature. Par nos propres forces, nous sommes incapables d'arriver à la grâce. Donc, le Christ a institué le baptême, l'Eucharistie, l'ordre, la confirmation, la pénitence, le mariage, l'extrême onction, les sept sacrements pour nous aider à acquérir cette grâce que nous sommes incapables d'acquérir par nos propres forces. Quant au légitime usage de la grâce, donc, il y a deux choses. D'une part, les actes qui nous conduisent à la grâce, et d'autre part, ceux qui s'accomplissent par la vertu de charité après avoir reçu la grâce. Donc, quant au légitime usage de la grâce, dit saint Thomas, usage de la grâce qui s'accomplit par la charité, les préceptes moraux ordonnent les œuvres essentielles à cette vertu. Notre Seigneur n'a donc voulu déterminer que les sacrements et les préceptes moraux dont l'accomplissement est nécessaire à la vertu. Comme ceci, on ne doit pas tuer, on ne doit pas voler, etc. Vous voyez comment notre Seigneur Jésus-Christ, en quelque sorte, nous élève petit à petit. Du passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il y a une élévation de l'âme vers le bon Dieu. Au début, on ne voyait pas très clair. Pourquoi ? Parce qu'on était loin de la lumière surnaturelle qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Par le passage au Nouveau Testament, l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ se rapproche des hommes. Il se rapproche des hommes à tel point, dans une telle mesure, qu'il va prendre notre humanité et l'unir à sa divinité par le mystère de l'incarnation. Pour la partie dogmatique, donc, nous avons des vérités nouvelles à croire, bon, avec l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Des vérités qui étaient déjà annoncées imparfaitement dans l'Ancien Testament, qui vont devenir bien plus concrètes, à savoir la Sainte Trinité. Sainte Trinité, le mot Sainte Trinité n'existe pas dans l'Ancien Testament. Certes, il y a des images de la Sainte Trinité, par exemple les trois anges qui viennent apparaître à Abraham, avant la destruction des villes de Sodome et Gomorre, ces trois anges représentent la Sainte Trinité. Quand notre Seigneur Jésus-Christ, quand Dieu, pardon, au début de l'histoire du monde, crée Adam et Ève, il parle au pluriel. Nous créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc il parle au pluriel pour bien montrer justement qu'il y a les trois personnes qui sont déjà en quelque sorte préparé, annoncé par tout cela. Donc, les vérités de foi, je reprends. Donc, par la partie dogmatique de toutes ces choses données par notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons des vérités nouvelles à croire, par exemple, celle que contient la foi à la Sainte Trinité. Mais il n'y a pour la morale aucun nouveau précepte à pratiquer. La loi des dix commandements de Dieu ne vient pas du Nouveau Testament, mais vient de l'Ancien Testament, par l'apparition de Dieu. Au bon Sinaï, à Moïse, c'est à ce moment-là que la loi a été donnée, la loi des dix commandements a été donnée aux hommes. Les vérités de foi sont enseignées par la révélation. Elles vont donc être plus explicites sous une loi où la grâce est donnée avec plus d'abondance. Donc il y a plus de moyens d'arriver à la grâce par le Nouveau Testament, évidemment, que par l'Ancien Testament. Les préceptes moraux, au contraire, relèvent de la raison qui en est la règle et la directrice. Il n'était pas nécessaire donc d'en ajouter d'autres. Alors, nous en sommes maintenant à la page 77 sur le polycopier. Nous abordons maintenant donc la prima secundae, première partie de la deuxième partie, question 108, article 3. La loi nouvelle éduque-t-elle bien les hommes par leurs actes intérieurs ? Donc, nous allons encore terminer surtout par l'explication de la question numéro 108. Nous allons terminer, Dieu aidant, le grand traité sur la loi. Je ne vais pas avoir le temps de le terminer aujourd'hui. Je terminerai, si Dieu veut, au prochain cours. Il reste donc toute la page 77 et la page 78 à expliquer donc, sur le polycopier pour terminer le traité sur la loi, les lois. Ensuite, nous aborderons, si Dieu veut, le dernier traité de la prima secundae, grand traité sur la grâce, une question 109 à 114, qui est certainement un des plus beaux traités de la sainte théologie de saint Thomas d'Aquin. Alors, voyons d'abord rapidement donc les principes établis par saint Thomas d'Aquin, et puis on reviendra à tout cela avec la grâce du bon Dieu donc la prochaine fois. Saint Thomas va se poser la question de savoir si la loi nouvelle, donc la loi de charité, a réglé suffisamment les actes intérieurs. Donc on peut répondre de façon incomplète en disant que la loi ancienne, la loi de l'Ancien Testament, donc s'adresse surtout, est donnée surtout pour les actes extérieurs, notamment toutes les purifications, la circoncision et tous les actes purificatifs de l'Ancien Testament. Donc, la loi ancienne de l'Ancien Testament avait donc pour but de nous donner la facilité d'accomplir ces actes extérieurs. Au contraire, la loi nouvelle devient une loi intérieure, beaucoup plus intérieure. Une loi intérieure, c'est-à-dire que c'est une loi beaucoup plus parfaite et qui est résumée dans le sermon sur la montagne. Dans le sermon sur la montagne, donc qui renforce la plus haute perfection de la vie chrétienne, les actes intérieurs sont parfaitement réglés. Donc quand on lit le sermon sur la montagne, on voit très bien qu'il y a quelque chose de plus qui est rajouté à la liste des commandements de Dieu qu'on trouve donnés à Moïse par notre Seigneur Jésus-Christ sur le mont Sinaï. C'est intéressant de relire par exemple le sermon sur la montagne. N'oublions pas que pour comprendre le sermon sur la montagne, il faut éclairer le sermon sur la montagne par le texte de saint Paul, 1 Corinthiens, chapitre 13, l'hymne à la charité. C'est l'hymne à la charité qui, justement, va illuminer le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est quoi? C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui explique ce qu'est la vertu de charité. C'est ça, le sermon sur la montagne. Chose que les Juifs de l'Ancien Testament ne pouvaient pas encore comprendre parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore venu directement à eux dans la chair humaine par le mystère de l'incarnation. Donc, le sermon sur la montagne, donc, sont les actes intérieurs qui sont réglés. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a bien dit, ce n'est pas celui qui dira « Seigneur, Seigneur » qui rentrera dans le royaume des cieux, mais celui au contraire qui va écouter la loi de bon Dieu, qui va écouter la parole de Dieu, qui la met en pratique. Écouter la parole du bon Dieu, c'est quoi? C'est le sermon sur la montagne. La mettre en pratique, c'est quoi? La mettre en pratique, eh bien, c'est tout simplement la vertu de charité. La vertu de charité pratiquée, concrétisée, justement, par saint Paul, donc dans l'hymne à la charité, qui rappelle bien que si je n'ai pas cette charité, si je n'ai pas cette vertu surnaturelle de charité qui me fait aimer le bon Dieu par pur amour, si vous voulez, si je n'ai pas cette vertu de charité, eh bien je ne suis qu'un hypocrite. Il n'y a plus que les actes, il n'y a plus que les actions extérieures, l'Ancien Testament, il manque la vivification de ces actions extérieures par la vertu de charité. Donc, Je vous conseille beaucoup, pour ceux qui ont un petit peu de temps, pour ceux qui n'ont pas, ben prenez-le, de lire pour le prochain cours, de relire les textes, le texte de saint Paul, surtout 1 aux Corinthiens, chapitre 13, et aussi le sermon sur la montagne, soit dans saint Matthieu, soit dans saint Luc, au chapitre 5, chapitre 6. Donc on a ce magnifique sermon sur la montagne, justement, qui va nous faire toucher du doigt la perfection que notre Seigneur Jésus-Christ demande, en quelque sorte, à tous ceux qui le suivent. Donc n'oublions pas que le passage de la loi ancienne, Ancien Testament, à la loi nouvelle, Nouveau Testament, c'est le passage de l'imparfait au parfait. C'est le passage de la crainte à la vertu de charité. C'est le passage donc de la crainte à l'amour du bon Dieu. L'amour du bon Dieu qui n'est plus pratiqué par obligation, mais amour du bon Dieu qui est pratiqué parce qu'on aime notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on utilise notre liberté pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. On ne suit pas notre Seigneur Jésus-Christ par pure obligation, ça c'est l'Ancien Testament. On suit notre Seigneur Jésus-Christ par pur amour, et ça c'est le Nouveau Testament. Il est évident qu'on ne va pas arriver tout de suite à cet acte de charité parfaite, et souvent au début, eh bien, on va pratiquer un acte de charité imparfaite, un acte de charité imparfaite, c'est-à-dire on va suivre notre Seigneur Jésus-Christ par crainte au lieu de suivre par amour. Mais ce qui est visé, ça c'est le symbole, ce qui est visé, c'est l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc nous verrons tout ça, si Dieu veut, la semaine prochaine. Donc nous allons terminer ce cours par une petite prière pour demander à notre Seigneur Jésus-Marie de nous aider à bien comprendre tout cela et mettre tout cela en pratique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.